Anne de Skalberg par Marcel Augagneur. Trois éclairs balafrèrent le ciel. De la nuit surgit un instant la crête d'une forêt, un long reflet caressant contrebas les roseaux de l'étang. La comtesse de Var, dame d'honneur de son Altesse Sérénissime, la princesse Anne de Skalberg, se retira précipitamment du balcon où, semblait-il, elle rêvait. Elle traversa le salon de l'appartement qu'elle occupait au second étage du palais d'été de Skalberg et courut au commutateur. Elle ouvrit et l'éteignit par trois fois. Le château reposait dans le silence. Tous les hôtes dormaient, la princesse aussi. La comtesse de Var s'enfuit le long des corridors obscurs. Dans le parc, la nuit suffocante. Le ciel, clouté d'étoiles, semblait soutenu à l'horizon par la masse sombre des Carpates. Sur le grand miroir terni de la pièce d'eau, la comtesse rama sans bruit. Sur l'autre rive se dressait la forêt d'où avaient jailli les appels lumineux. Quelque part, très loin, un chien aboya. Puis le silence, coupé par les roulades irritées d'un hibou, par le tournoiement sonore des nocturnes. La comtesse n'avait point peur. Que craignent ceux qui veulent trahir? Madame de Var avait dissipé sa fortune au jeu. Elle était joueuse, elle avait des dettes. Il y avait au Skalberg, comme dans toute principauté féodale, un parti anti-monarchiste qui savait apprécier l'influence de la comtesse sur la princesse Anne pour la pousser, par des conseils perfides, à l'abdication. Un buisson soudain parut s'embraser. La comtesse réprima un geste d'humeur. Elle distinguait une automobile dans laquelle un homme l'attendait. « Vous savez, Aknin, inutile d'allumer vos phares pour mon arrivée. Très gentille votre illumination, mais de la prudence. » En tant que chef du parti antimonarchiste, il lui baisa la main sans répondre. La comtesse reprit avec une négligence de rigueur. « À propos de prudence, j'ai été assez imprudente au jeu, n'est-ce pas ?»«
Oui, si vous voulez.
Nous en reparlerons. »«
Qu'y a-t-il au château ?»«
Rien. Si ce n'est que le Premier ministre a discuté avec Anne sur la crise financière. »«
Vous avez su quelque chose ?»«
Oui. Il a dit à cet enfant, ou bien vous épousez le prince de Parilly, qui est fort riche, ou bien... » Vous allez vous-même à Paris emprunter sur vos gisements de pétrole. Alors, elle part pour Paris demain avec le Premier ministre. Elle ajouta, voilà tout ce que je sais. Il ne répondit point. Il songeait. Tout à coup, il prit son portefeuille.
Combien ?
150 000. Énonça la comtesse avec candeur. Il sursauta. Vous allez épuiser la caisse de notre parti. Elle eut un geste d'indifférence.
Oh, vous savez que je ne comprends rien à la politique.
Il signa un chèque sans même cacher sa nervosité, puis, remontant dans sa voiture,
« Je vous accompagne, » lui dit-il.
L'automobile traversa la forêt déserte. Des biches effrayées fuyaient devant les phares. Parfois passait un lièvre, d'un bond. Un vieux mur apparut. Aknin stoppa devant une porte basse que poussa la comtesse.
« Au revoir, » fit-elle.
Il ne répondit point.
« C'est moi, ce n'est que moi !»
cria John Lewis, vedette des Folies Pompadour, en entrant coup de vent dans le bureau de François Deslandes. Une sténographe s'enfuit, effarouchée. Jeanne Lewis était une petite femme à la fois fine et commune, une de ces épluchures de faubourg qui, sur les planches, personnifient pour les étrangers la parisienne. Elle affectait une gaieté à la langue énervante, que démentait dans son visage mobile qui voulait être rieur le regard usé de ses yeux noirs. Malgré les « moi je jette l'argent par les fenêtres » ou les « vous verrez, je mourrai sur la paille. » Elle avait toujours su économiser et avait son compte en banque, comme tous les petits bourgeois dont elle était issue. Elle s'attachait peu à ses amants. Elle n'aimait point l'amour. Elle jouait avec eux le rôle de la bonne camarade pour cacher sa sécheresse. « Je te dérange ?»«
Mais non, » répondit François Deslandes, mollement.
Il était beau, le savait, mais avait l'air de l'ignorer. Il portait avec la naïveté de la jeunesse un perpétuel masque de froideur, pour souligner son sens des affaires. Il dirigeait la French Oil. Mais ses yeux étaient toujours rêveurs. Jeanne Lewis appartenait à un type opposé, donc complémentaire. C'est pourquoi elle était sa maîtresse.
« Tu ne m'embrasses pas ? »
demanda-t-elle en faisant la moue.
« Comment vas-tu ? » ?»«
Bien. Tes affaires vont bien. Dis-moi, est-ce une bonne valeur les pétroles du Skalberg ? Pourquoi me demandes-tu ça ? » Elle mentit. « C'est pour une amie qui en parle tout le temps au théâtre. » Il haussa les épaules.
« Non. Une exploitation sérieuse au Skalberg, une folie.
Dans un pays troublé par les révolutions, les grèves,
Figure-toi, le parti antimonarchiste. » Elle esquissa un geste de protestation. « Oh, je ne comprends rien à la politique. Je dirai à mon ami qu'il ne faut pas acheter ses actions. »«
Certes, non. »
Il sourit.
« Qui est-ce ? »
Elle mentit encore.
« La petite Rita. »
« Rita, cette poule qui rêve au placement de mère de famille ? » ?»«
Entre nous, elle en a l'âge. »
Elle poursuivit, satisfaite de ce renseignement.
Elle s'habille comme si elle avait 15 ans.
« Tiens, regarde sa photographie dans mode. » Elle ouvrit une revue qu'elle tendit à François.
« Mais elle est ravissante. »«
Comment ? » s'écria Jeanne. « Tu la trouves jolie ?»«
Admirablement belle. »«
Tu es sérieux ? » ?»«
Je t'assure, Jeanne, que je le pense. »
Inquiète, elle se pencha vers l'image que contemplait François, puis rit aux éclats.
« Mais c'est le portrait de la princesse de Skalberg. C'est un comble. Prendre Rita qui est une horreur pour... »«
Mais pourquoi la regardes-tu ainsi ?»«
C'est drôle. Tu l'as tout à coup si distrait, si rêveur. »«
Oh, tu peux tout me dire. Moi, je suis une bonne fille. »
Il ne l'écoutait pas.
Dans le coupé bleu droit de son automobile, Son Altesse la princesse Anne de Skalberg songeait, ou plutôt, elle accrochait sa rêverie aux échappées du paysage. Les gorges d'eau montaient le mugissement des torrents, couverts par le bruit du moteur, la netteté des monts tremblant dans un reflet de la vitre, et partout les pins innombrables, d'une tristesse serrée. Elle soupira en songeant que c'était là son domaine. Le titre pompeux qui l'accablait découlait d'une souveraineté millénaire et obscure sur une poignée de montagnards et de contrebandiers. La princesse soupira. Elle préférait Paris. Elle s'y plaisait, puisqu'elle y plaisait. Elle se tourna vers un vieillard respectueusement assis sur un strapontin. C'était son premier ministre, le comte Armoiry. Il est long ce voyage. Jamais je n'aurais cru mon pays aussi grand. Il y a 15 minutes que nous roulons et la frontière n'arrive point. Comme il ne répondait point à la plaisanterie, elle reprit. Armoiry, asseyez-vous à côté de moi.
Madame, le protocole.
Elle eut soudain l'air résigné.
Ah oui, c'est vrai.
On pourrait nous reconnaître.
Parlons-en, sur les routes, les paysans s'agenouillent.
Vous voyez que vous êtes aimés.
Et dans les villes, les ouvriers nous jettent des pierres.
Parce qu'ils sont radicaux.
Elle eut une moue.
Vous savez, je ne comprends rien à la politique.
Elle soupira.
Nous ne sommes pas gouvernés.
Elle rit.
Je n'étais pas faite pour être reine.
Ne protestez pas, Armoiry, c'est vrai.
J'étais faite pour être une simple bourgeoise, ayant mon hôtel, mon auto.
Elle sauta sur une autre idée, selon son habitude, ce qui rendait particulièrement difficile et même pénible les conseils de gouvernement.
Au sujet du pétrole, que dois-je dire ?
Votre Altesse décidera.
Elle convoquera les principaux banquiers à la légation.
À la légation ? Jamais.
Armoiry parut consterné.
Mais où Votre Altesse, pardonnez-moi cette question, compte-t-elle descendre ?
Dans un palace, Ritz, comme ma voisine, la reine de Roumanie.
Elle était indignée.
La légation, pour être la prisonnière de mon ambassadrice, pour y présider chaque soir un banquet donné par la colonie de Skalberg à Paris. Et tous les Skalbergeois vivant à Paris, ils sont garçons coiffeurs et ils nourrissent des hérissons, tout comme les petits Savoyards leur marottent.
Marmotte, corrigea le Premier ministre.
Mais j'en viens au sujet que Votre Altesse a daigné effleurer. Il y a en France 3 compagnies de pétrole capables de combler le déficit du budget. L'International, la Gallia et la French Oil. La Gallia bat de l'aile. L'International seul peut vous intéresser. Quant à la French Oil, elle s'est spécialisée dans les entreprises coloniales. Il est si avide qu'on la pourrait comparer à une bande de requins.
Vous me conseillez donc l'International ?
Oui, madame.
Mais déjà, elle ne l'écoutait plus.
Ah, la frontière, enfin.
Ah, l'air pur de l'étranger.
Comme je me sens à l'aise chez les autres.
Voyez, cher Armoiry, notre hérisson national peint sur le poteau.
Un officier s'avança vers l'automobile. Puis, ayant vu les occupants, il recula et salua respectueusement. La princesse allait reprendre la parole quand elle remarqua tout à coup le trouble du vieillard.
« Qu'avez-vous donc ?»«
Je songe à Knin, »
avoua-t-il.
Elle regarda le poteau frontière qui s'éloignait.
« Vous le croyez donc vraiment dangereux ?»«
Très dangereux, madame. Il est capable de tout pour vous renverser. Son parti est riche, discipliné, et il est merveilleusement renseigné, je ne sais par qui. »
La princesse se retourna encore.
Un virage de la route lui permit de voir le poteau encore une fois.
Mais elle avait le sentiment que c'était la dernière fois.
Riche de 200 millions, François, l'un des plus redoutables financiers européens, connaissait toute l'amertume de la faiblesse. Né avec une nature amoureuse, il avait appliqué sur lui-même, par peur de lui-même, les préceptes qui lui avaient été inculpés par un père banquier. L'argent lui masquait le bonheur, et il croyait trouver son bonheur dans l'argent. Autrement, comment expliquer sa tendresse pour des femmes entretenues? On se moquait de sa fidélité. Les railleries des noceurs auraient dû l'éclairer sur sa vraie nature. Toutefois, lorsqu'il était seul, il se sentait envahi par un désir de confiance et d'amour auquel personne n'avait su répondre. Alors, dans sa solitude, il chercha à reprendre courage, bien qu'il ne soupçonnât point toute l'étendue de son désespoir. Les paroles de consolation, d'amitié, qu'il aurait voulu qu'on lui adressât, il se les disait à lui-même. Aussi, dans son hispano, confortablement couché, le volant en menton, les pieds à la hauteur des yeux, tous les signes d'une grande fortune et le désarroi dans l'âme, se répétait-il en remontant les Champs-Élysées. « Allons, mon petit François, du courage, la vie n'est pas si triste, il faut accepter ta solitude. Ta maîtresse ne t'aime pas, tes amis non plus, tu sais voir toute leur misère alors qu'ils croient t'aveugler. Tu es seul, tout à fait seul. Tes efforts, ton énergie, tu dois les puiser en toi et non dans l'amour que tu cherches sans le rencontrer. » Il se parlait ainsi, familièrement, pour se raccrocher à lui-même dans ce naufrage qu'est la vie quotidienne. Il remontait toujours l'avenue des Champs-Élysées. « Tu es tout seul. Mais chacun se sait seul. Alors pourquoi t'évader du sort commun ?» De la rue de la Boétie déboucha une automobile toute blanche qui précéda, dans la longue file, la voiture de François. « Une hispano, » observa-t-il machinalement. Une main gantée se leva. Il fallait s'arrêter. Une femme seule. Est-elle jolie? Le troupeau s'ébranla. Par une manœuvre hardie, il dépassa la voiture blanche, se retourna et eut comme un coup de poing au cœur. C'est elle, Anne de Skalberg. Il la contempla et tous les traits de ce visage entrèrent dans sa mémoire pour n'en plus jamais disparaître. Elle lui jeta un coup d'œil rapide, détourna son regard et se hâta de le dépasser. La voiture blanche prit de la vitesse pour contourner l'Arc de Triomphe. François allait la suivre. Un agent lui intima l'ordre de s'arrêter. « Je vais la perdre de vue, la perdre à tout jamais, » s'affola-t-il. Il ne réfléchit point. L'accélérateur poussait à fond. Malgré les coups de sifflet, il s'élança. L'automobile blanche arrêtée devant lui par un second barrage. Il eut une inspiration. Il ne freina point. Un choc, une commotion folle, un cri. Il sauta à terre, déjà entouré de badauds. Il courut à la voiture qui gisait, le pont arrière brisé, les roues en zède. La sienne avait le capot défoncé. Il se pencha sur la princesse. « Madame, vous n'avez rien ?» Elle leva ses yeux voilés et eut un sanglot. « Non, merci, vous êtes tout à fait aimable. » Elle soupira. « Monsieur, je ne vous connais pas, mais je suis une honnête femme. » Elle s'évanouit. Au lieu de murmurer le classique « Où suis-je ?», elle dit « Je vais mieux. » Affalée sur une chaise, dans la pharmacie, sa tête entre les mains de François, elle ouvrit les yeux. « Ah, c'est vous. Mes compliments, monsieur. Veuillez retirer vos mains. » Il obéit timidement. Elle poursuivit. « J'ai la nausée. » Elle ferma les yeux, les rouvrit de nouveau. Il y a François qui se taisait. « Ne m'adressez pas la parole, monsieur. Je ne vous connais pas. » « Madame, je me tais. » Et comme il gardait le silence, elle reprit, furieuse. « Vous pourriez au moins vous excuser de votre inqualifiable maladresse. » Il rougit tel un enfant. « Madame, je suis désolé. Je vous demande pardon. » Il bafouilla. « Je ne voulais que votre bien. Jusqu'à présent, il me semble que non. Vous êtes cruel. Je ne suis pas une sainte, monsieur. Dois-je vous bénir d'avoir brisé ma voiture, de m'avoir assommé? C'est vrai. Vous n'êtes qu'une honnête femme. Alors vous avez le droit de crier. Et vous, vous n'êtes pas un honnête homme? Si. Alors nous ne pouvons guère nous entendre. Pourquoi, madame? Parce que seuls les gredins ont du charme. Pour vous, madame, je deviendrai volontiers un gredin. » Et comme elle allait protester, il se hâta d'ajouter « Je tiens à vous reconduire à votre hôtel. Habitez-je l'hôtel? Comment le sauriez-vous? Je le présume. Acceptez mon offre. » Elle hésitait. Il reprit « Je me dois de vous reconduire, sinon je ne serai point un gredin bien élevé. J'accepte. » Sur la chaussée, François est à un taxi et à la princesse. « Où dois-je vous déposer, madame? » « À l'angle de la rue de Castiglione et du faubourg Saint-Honoré. » « Alors, chauffeur Horitz. » Assis dans le coupé, elle éclata. « Ainsi vous poussez l'indiscrétion jusqu'à savoir que je descends au Ritz. Il faut que je répare le mieux possible mon inqualifiable maladresse. Parlons-en, si vous le désirez. Mes freins ne fonctionnaient pas. Les vôtres fonctionnaient trop. Il était donc naturel que j'aie la joie de vous connaître. Non, monsieur, Vous vouliez m'aborder ?
C'est exact, dit-il froidement.
Elle fut indignée.
Pour qui me prenez-vous ?
Sachez que je ne rends à personne et que je gagne ma vie.
Dans la couture ? Demanda-t-il ironiquement.
Oh, monsieur, je suis femme d'État.
Le taxi franchissait la place de la Concorde.
Et moi, madame, je suis homme d'affaires.
La couture, n'est-ce pas ?
Non, madame, le pétrole.
Un autre silence. Anne cachait sa surprise. Elle réfléchissait.
La Providence m'envoie cet homme.
Elle se tourna vers lui et d'une voix brève, elle imitait les femmes d'affaires.
Quelle firme ?
Il ouvrit son portefeuille.
Voici ma carte.
Elle pâlit un peu.
Ah, c'est vous la French Oil ?
Et soudain, rêveuse.
Je vous croyais un vieux monsieur.
De nouveau la voix brève.
Affaire coloniale ?
Oui, madame.
Ainsi j'étais pour vous un vieux monsieur.
Capital de 150 millions, continua-t-elle, imperturbable.
Entièrement versé,
acquiesça-t-il poliment. Il ajouta, quant à vous, madame, vous êtes délicieuse.
L'automobile s'arrêta à cet instant devant la porte du Ritz.
Elle descendit, légère, et se tournant vers François.
Nous nous reverrons, monsieur. Je compte à vous voir.
Venez demain, à 3 heures, ici. Nous parlerons affaires.
Au revoir, monsieur.
Ah, pardon, je suis la princesse de Skalberg. Et en pénétrant dans le hall, elle songeait.
Pourquoi lui ai-je dit de venir ?
De toute façon, je ne devais pas le voir.
Contrairement à l'usage, Jeanne Lewis s'était la première aperçue que François la délaissait.
Sa distraction, ses plaintes sur l'état de ses affaires, dont il ne parlait jamais, ses voyages fréquents.
Et les petites amies du théâtre, pleines de sollicitude.
Ma pauvre Jeanne.
Tiens, tu as toujours bonne mine.
Toujours heureuse ? Tant mieux.
Ses indices l'avaient éclairée.
Une agence avait fait le reste. En bonne petite bourgeoise, Jeanne avait conçu une illégitime fierté à la pensée que l'autre était une altesse sérénissime. Puis elle était revenue, poussée par son sens pratique à une plus claire vision des choses. Elle devait lutter contre une intangible rivale. Elle avait enfin adopté le parti que prennent, en ce cas, la plupart des femmes, l'espionnage. Un soir, Jeanne se glissa dans le bureau de François, grâce à une clé qu'il lui avait confiée. Elle était allée droit au secrétaire, avait fracturé les tiroirs. Dans les 3 premiers, des papiers d'affaires qu'elle avait compulsés, avec tant d'attention qu'elle avait presque oublié le but de sa visite.
« Tiens, il prépare une baie sur la Galia. Il me l'avait cachée. »
Poursuivant ses investigations, elle avait découvert, à sa grande surprise, un exemplaire de mode. Un éclair avait traversé son esprit. Elle avait feuilleté les pages, le portrait d'Anne de Skalberg au bas duquel étaient tracés ces mots. « À François Deslandes, à mon seul amour. » Elle s'était enfuie, la revue sous le bras, ivre de colère et de joie. Cette exaltation l'avait empêchée de remarquer que dans la rue, un homme la suivait. Le lendemain, dans sa loge au théâtre, elle reçut une lettre de François.
« Cher ami, la vie a des détours imprévus, des carrefours où bifurquent les sympathies. Veuillez trouver ici, puisque c'est notre cas, le dernier témoignage de la mienne. » À ce congé, t'ai joint un chèque de 100 000 francs qu'elle se promit la rage au cœur de toucher le lendemain.
« 100 000 francs, se répétait-elle, 100 000 francs, ce qu'il donnait à toutes ses maîtresses, et à moi pas plus. »
De fort mauvaise humeur, elle s'étendit sur un divan pour mieux réfléchir.
À ce moment, la vieuse lui apporta une carte. Jeanne Lewis lut. « Comtesse de Var, au-dessous ces mots écrits au crayon, dame d'honneur de son Altesse Sérénissime, la princesse de Skalberg. »«
Faites entrer, » fit Jeanne.
Anne et François se voyaient tous les jours sous l'œil complaisant du Premier ministre, le comte Armoiry. Leurs amours étaient purs. Ils allaient dans les allées désertes du bois, s'asseyaient sur le gazon. Le silence les entourait, parfois coupé par la trompe d'une automobile ou par le cri d'un remorqueur. Ils demeuraient côte à côte, sans rien dire. Parfois aussi elle emportait un livre, Les Nuits de Musset, Les Lettres de Mademoiselle de Lespinasse. Il écoutait Anne lire avec ce charme que donne l'ignorance de toute diction. Puis il faisait des projets où les affaires s'enchevêtraient avec l'amour. Elle lui répétait souvent. « Puisque vous me prêtez 120 millions, François, dès que ma banque les aura reçus, je partirai pour le Skalberg et je vous y recevrai en grande pompe. Ensuite, je vous anoblirai.
Pourquoi ?
Vous serez duc et je vous épouserai.
Anne, c'est bien romanesque. Vous partirez, vous m'oublierez. »
Il la regardait avec l'angoisse d'une séparation prochaine qu'il savait nécessaire. Il ne croyait pas au succès du projet qu'Anne mûrissait. Il devinait qu'elle était adroitement espionnée. Il ne savait par qui. Pourquoi François avait-il trouvé son bureau ouvert, ses papiers intacts, mais la revue mode avait disparu ? Il avait toujours caché Anne pour qu'elle pût goûter quelque sécurité auprès de lui. Elle était menacée.
elle ne lui en paraissait que plus précieuse. « Faites entrer !» avait prononcé Jeanne Lewis avec l'air fatal et douloureux de la courtisane à qui l'on vient arracher son amant. Elle pensait « Cela va être très dame aux camélias !» La comtesse de Var rentra, rayonnante et affable, parce qu'au fond très gênée. « Mademoiselle, permettez-moi de vous dire d'abord toute mon admiration pour votre beau talent. Si, je vous assure, j'étais dans la salle. Au défilé des estampes à travers les âges, vous étiez exquise en cruche cassée. Et dans la scène de la pierreuse, vous étiez d'une distinction. Que me vaut l'honneur de vous recevoir ?» demanda froidement Jeanne qui tenait à son rôle. « Ce n'est point la princesse Anne qui m'envoie, mademoiselle, » répliqua la comtesse. « Elle ignore ma présence à Paris. Non. Je vous porte un intérêt d'autant plus grand qu'il va de pair avec le mien. » Elle leva les yeux au ciel. « Nous pouvons être alliés, mademoiselle. » Elle darda sur l'actrice son regard glacé. « On vous trompe, mademoiselle, on vous abandonne, et vous vous trouvez privée du soutien qui vous était nécessaire. »« Ce n'est plus dû ma fils, mais dû ma père, » réfléchit Jeanne. « Je suis bien renseignée. Alors vous, vous vengez. Vous prenez à François Deslandes le portrait de votre heureuse rivale. Madame, c'est assez. Voyons, mademoiselle, nous sommes alliés. » Elle approcha son fauteuil du divan. « Nous, c'est aussi le parti républicain du Skalberg, et dont je sers les intérêts à Paris. » Or, la princesse vient de se couronner de gloire en obtenant un emprunt avantageux pour son pays. Il faut détruire son prestige. L'arme, c'est vous qui l'avez dans vos mains. Enfin, le portrait. Madame, vos querelles politiques ne me regardent pas. La comtesse sourit, apitoyée. Oh, enfant, grand enfant, je vous croyais plus diplomate. Nous vous l'achetons, ce portrait. Nous le publions dans notre journal. Scandale affreux. Le Skalberg est si austère. Anne rompt avec François Deslandes. Votre amant vous revient avec toute sa fortune, son immense fortune. Les jours s'écoulaient. Anne ne songeait point à repartir, ou plutôt, elle écartait la pensée d'une séparation. Elle aimait François avec toute l'enfantine tendresse d'un premier amour. Quand ils se voyaient, ils avaient un plus vif sentiment du bonheur. François trouvait en elle une pureté qu'il avait longtemps cherchée. Elle trouvait en lui sa propre image, pieusement gardée. Seule une grande pudeur les empêchait de s'avouer toute l'étendue de leur amour. Cependant, le jour où François dit à Anne, c'était dans la forêt de Fontainebleau. Anne, un train blindé a emporté hier les 120 millions pour le Skalberg. Elle l'embrassa éperdument pour la première fois. Aknin s'était caché dans une petite maison de campagne où il vivait, se sachant surveillé, de la vie paisible des paysans. Mais dans les arbres était dissimulée une antenne de TSF grâce à laquelle il recueillait toutes les nouvelles. Lorsqu'il apprit que l'heure de la French Oil était arrivée au Skalberg et que d'autre part un émissaire venu de Paris l'attendait, il bondit dans son automobile. C'était à la lueur d'un beau clair de lune, le même que François et Anne contemplaient dans la forêt de Fontainebleau. Et le lendemain, quand les habitants de Skalberg ouvrirent leurs volets, ils furent surpris de voir, à la cime du château princier qui dominait la ville, flotter le drapeau rouge, ainsi que sur le palais du gouvernement, sur la banque d'État. Des automitrailleuses parcouraient les rues. Sur les places, des bandes de soldats portant sur leurs uniformes des brassards rouges. Cette défection de l'armée n'étonna personne. Une fois de plus, elle avait été achetée. De vastes proclamations s'étalaient sur les murs. Anne y était appelée la Messaline du Skalberg. Bien en évidence, la reproduction de la dédicace à François. Elle avait voulu livrer le pays à l'esclavage d'une firme étrangère dont le directeur était son amant. Heureusement, le gouvernement provisoire, chef Aknin, venait de sauvegarder la séculaire indépendance du pays. La princesse Anne était déchue ainsi que l'aristocratie, les biens du clergé confisqués. De noir, le hérisson national devenait rouge. Partout la liberté, l'égalité, la fraternité. Quant à l'or de la French Oil, on le gardait. Ça lui apprendrait à vouloir dominer les autres. Il y en aurait pour tous les citoyens. C'est ainsi que se font les révolutions. Dans le hall du Ritz, la princesse et François se parlaient à voix basse lorsque le premier ministre, le comte Armoiry, accourut, haletant, un journal à la main. « Madame, madame, veuillez lire, dans votre pays. »« Quoi donc, une émeute ?»« Non, madame, la révolution. »« J'ai entendu citer ce mot, » songea-t-elle en pâlissant. Elle se fut trouver mal sans la présence de François qui s'était emparé du journal. Il sursauta, en première page, en gros caractères, Jeanne Lewis a été assassinée. Et au-dessous, le meurtrier, anarchiste, agissait pour le compte d'un parti politique étranger. Une perquisition faite chez l'actrice a amené la découverte de papiers compromettants. L'instigatrice du crime, la comtesse de V, a été arrêtée.
Il tendit la feuille à Anne, qui s'écria.
« Je comprends tout.
La comtesse nous trahissait pour Aknin, qui l'a trahi à son tour.
L'affaire sera étouffée, »
énonça le premier ministre.
« La comtesse sera déclarée folle et internée, son complice aussi. »
Il y eut un silence. Anne reprit.
« En somme, je suis exilé. »
« Et moi, je suis ruiné, »
ajouta François.
« Mais je vous aime.
Vous restez en France, je vous épouse, et je refais ma fortune. »
« Vous ne sauriez accepter, madame, »
objecta le comte Armoiry, choqué.
« Votre Altesse ne saurait oublier que les traditions
ne sont que la liberté de l'histoire, »
coupa la princesse Anne,
en tendant, comme dans les films, ses lèvres à François.
Ainsi s'achève Anne de Skalberg par Marcel Augagneur.